La première chose que je me dis, c'est est-ce que je préfère avoir cette chose-là aujourd'hui ou est-ce que je préfère avoir, et là on va prendre un chiffre simple, 10% de revenus passifs tous les ans jusqu'à la fin de ma vie.
Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant 3 ans.
Salut les gars, comment ça va?
Salut.
Salut Julien, comment ça va toi?
Salut à vous deux.
Ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour notre 9e épisode déjà de Balado 3.0 saison 1. Alors saison 1, est-ce qu'on peut déjà teaser en disant qu'il y aura une saison 2?
Oh, je pense que oui, là, on commence à avoir des retours, parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que ça va faire en fait un an qu'on a fait le premier épisode, là, ça y est, on peut
exact.
Fêter les un an d'anniversaire de Balado 3.0,
c'est vrai.
Ce qui paraît assez étonnant pour les personnes qui nous écoutent, puisque vous avez démarré en janvier 2023, et nous on avait commencé en mars 2022.
Il y a eu 6 mois de gestation, donc heureusement que Flo est venu pour nous donner un gros coup de main. Merci à toi encore, Flo. Bon, j'en dis pas plus. En fait, ça sera un peu l'objectif du dernier épisode. Alors, on vous invite à vous abonner sur la chaîne d'ailleurs pour ne pas manquer d'épisodes et aussi à nous laisser des commentaires si vous aimez un petit peu le sujet de nos discussions. Si vous avez d'ailleurs des idées aussi, on est toujours à la recherche de nouveaux topics à discuter ensemble, toujours autour bien sûr de l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie. Donc voilà, il y aura un épisode 10 où on fera un peu la synthèse de la saison 1. Mais pour l'heure, nous sommes donc à l'épisode 9. Et comme François le faisait remarquer tout à l'heure, dans les 2 derniers épisodes, on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a parlé d'entrepreneuriat concrètement. On a expliqué pourquoi finalement les idées, c'était pas aussi important qu'on voulait bien le croire, mais que la mise en œuvre était beaucoup plus importante et que c'était un des traits caractéristiques des grands entrepreneurs. Et on a parlé aussi du work your wage, donc un peu cette notion de revenu passif, revenu actif, etc. Et en fait, aujourd'hui, on voulait vous partager une équation qu'on a mis en œuvre ensemble. Alors une équation, je vois déjà peut-être certains auditeurs qui voudront quitter tout de suite l'antenne, peut-être qu'ils sont un peu moins mathématiques. Alors restez là, parce qu'en fait, l'objectif, au contraire, c'est de simplifier quelque chose qui de prime abord peut sembler complexe. Et ça a vraiment été la volonté pour nous. Alors c'est vrai que François et moi-même, on a un cursus d'ingénieur, donc on a tendance un peu à tout ramener dans les mathématiques. Ce côté conceptualisation finalement de choses un peu plus complexes. Et Christian ramène toujours là-dedans des notions. D'ailleurs, il a apporté sa pierre à l'édifice, bien sûr, dans l'équation. On va y revenir avec d'autres paramètres qui sont tout aussi importants, notamment la notion de cœur, en fait, hein, dans l'équation. Je vous propose qu'on attaque directement. François, est-ce que tu veux donner l'équation, s'il te plaît?
Eh bien oui, alors l'équation est très simple, c'est YC égale AX plus Z. Alors j'aimerais quand même rendre à César ce qui est à César, le début de l'équation, Y égale AX, est quelque chose que vous avez dû entendre de la part de Yann Darwin. Bien sûr, vous commencez à comprendre qu'on a quand même des mentors. On fera peut-être un épisode d'ailleurs sur les mentors, ça me dit bien ça.
Je l'ajoute aux notes.
Et Yann Darwin, du coup, a noté cette information-là, cette équation-là, Y égale à X. Il en parle dans 2-3 épisodes et je trouve que ça avait beaucoup de sens. Et je voulais aborder ça, aller peut-être un petit peu plus loin que ce qu'il l'a fait en ajoutant des paramètres. En tout cas, c'est ce qu'on a fait avec Julien et avec Christian. Et puis l'idée était aussi de vraiment reprendre chacun des termes de l'équation, parce que des fois on se perd un peu en route et on se focus sur un terme de l'équation et on voit pas la globalité finalement de la problématique finalement.
Oui, et puis ça permet aussi de voir la relation entre ces paramètres-là, et que des fois, quand on a tendance à surestimer un des paramètres, eh bien, ça se fera au détriment d'un autre. Donc, en gardant l'équation en tête, ça nous permet d'avoir une approche saine et écologique, en fait, de notre parcours, en fait, dans l'atteinte de l'objectif ultime, l'indépendance financière.
Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que avec les paramètres qu'on va vous donner, on va essayer aussi, enfin en tout cas moi je vais essayer de vous donner ce que vous pouvez vous attendre, en tout cas sur certains paramètres. Je vais donner des exemples possibles, ce qui va permettre de concrétiser les choses, de passer aussi dans le monde concret, dans la réalité, et potentiellement dans l'action pour vous, pour que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs, ce que je vous amène à faire, en bas de page de l'épisode, je vous mettrai un lien, c'est un lien avec un fichier Google Sheets, et en fait, vous aurez accès à une calculatrice. Et dans cette calculatrice, vous pourrez en fait exploiter, d'une certaine manière, l'équation. Ou en tout cas, vous amuser avec ces chiffres pour voir où c'est que vous pouvez aller.
Parfait. Bon, bah excellent. Alors allons-y. Y, c'est égale à x plus z, ou en fait moins z. Hein,
oui, ça c'est.
Ça dépend, là c'est le côté mathématique, le z est un chiffre négatif, plus moins, ça fait moins. Bon, ok. En fait, c'est l'équation de quoi, en fait? Est-ce qu'on peut commencer par là? Est-ce que c'est l'équation de la richesse? Est-ce que c'est l'équation de...
Comment est-ce que toi tu l'avais compris, Christian? Parce que ça m'intéresse, parce qu'on en a parlé, on a fait un resto, on a tout discuté ensemble, et puis à la fin on savait pas trop comment la nommer, cette équation. Moi, j'ai une idée en tête. Est-ce que, Christian, toi, tu l'as?
Oui, j'ai une idée. Maintenant que tu me poses la question, j'ai plein d'idées qui fusent. Moi, j'avais entendu dans un premier temps cette notion de... quand vous en aviez parlé tous les deux, cette notion de l'atteinte de la liberté financière. Maintenant, pour moi, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui peut... prendre plusieurs formes et plusieurs aspects d'une personne à l'autre. Donc si je devais peut-être prendre un peu de recul sur ça, moi ce qui me vient, ça serait la formule de la matérialisation ou de la concrétisation d'un rêve.
Ouais.
C'est-à-dire comment rendre tangible un rêve, un objectif, et en utilisant finalement notamment l'argent comme un moyen pour... voilà, rendre tangible ce rêve, concrétiser ce rêve. Donc, à quelque part, cette formule pourrait être un moyen de, ouais, c'est ça, de rendre tangible l'impalpable, de rendre tangible le rêve. Je sais pas si ça vous parle.
Ouais, moi ça me parle. François,
ouais,
comment tu voyais ça, toi ?
Moi, c'était ça, c'était l'équation du rêve, l'équation des rêves, l'équation qui rend concret les rêves. C'était cette idée-là. Hein. C'est le but vraiment de cette équation, c'est d'atteindre vos objectifs. D'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos projets de vie par plein de solutions. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'équation va vous montrer quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que vous allez avoir plusieurs leviers que vous pouvez utiliser, et bah, si vous ne les avez pas en tête, vous ne le ferez pas, tout simplement.
Ok, donc Y, c'est l'objectif finalement qu'on se donne. Alors c'est un
oui.
Objectif financier. Peut-être pour donner un peu de perspective sur cet objectif, j'aime bien parler du FIRE Movement. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont un peu familiers avec ça. Si ce n'est pas le cas, en fait, c'est un FIRE, c'est pour Financial Independence Retire Early. Donc, c'est un mouvement qui est parti des États-Unis. Bon, en fait, c'est toute une partie de la population qui avait vraiment pour objectif d'être à la retraite, je fais un anglicisme, d'être à la retraite le plus rapidement possible. Et donc, l'idée, c'est de gagner beaucoup, beaucoup de revenus, de vivre de façon très, très frugale, donc de limiter ses dépenses au maximum, et éventuellement, donc d'avoir cet argent aussi, de monter également en intelligence financière, si je puis dire, pour investir cet argent sur les marchés, et que le retour, on va dire, moyen des marchés, à ce moment-là, nous permettre de tout simplement de vivre notre vie. Donc la règle du FIRE Number, et si ça vous intéresse, vous pouvez voir, je pense que sur Reddit, il y a un groupe qui est complètement dédié à ça. Il doit y avoir d'autres moyens également d'avoir des informations là-dessus. Mais la règle, c'est vraiment de prendre finalement le nombre de nos dépenses annuelles. Et ce chiffre-là, on va le multiplier par 25. Donc si par exemple, je vais prendre un exemple très simple, ça me coûte 100 000 de vivre par année. 100 000, donc on va le multiplier par 25, je fais le calcul en live, ça fait 2 500 000. Donc si j'ai 2 500 000 dollars que j'investis sur les marchés, on part du principe assez conservateur que les marchés vont nous donner 4% de retour annuel. Hein. En fait, ça peut être un peu plus que ça, mais là, on reste vraiment simple. et bien à ce moment-là, on va continuer de générer 100 000, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour vivre chaque année grâce au marché. Après, il y en a qui vont un petit peu plus loin et qui disent qu'il faudrait avoir également une autre poche de cash qui, elle, va être plutôt pour un peu des urgences, entre guillemets, ou quand les marchés vont être plutôt dans des cycles baissiers, parce qu'à ce moment-là, si vous retirez du coup des intérêts de votre stack pendant un marché baissier, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que vous perdez un peu plus sur du long terme. Donc, on peut avoir une autre poche de cash. Alors là, je ne sais plus combien il y en a qui préconisent. Je crois que c'est 6 fois le nombre de nos dépenses annuelles. Donc voilà, ça donne une petite idée. Donc, c'est intéressant, je trouve, de reverse engineer et de partir de la fin en disant « Ok, donc avec quoi je serais bien aujourd'hui? De combien j'ai besoin pour vivre sur mon compte ?» Et en fonction de comment j'arrive à cet objectif-là. Et quand je dis être bien, ça ne veut pas dire nécessairement, et nous c'est là qu'on dérive un petit peu du mouvement FIRE, ça ne veut pas juste dire d'être à la retraite et de plus rien faire. Parce que comme on l'a dit dans l'épisode précédent, pour nous, être actif c'est super important, mais être actif sur des projets qui vont nous énergiser, qui vont nous passionner, etc. Donc peut-être qu'on est obligé dans un premier temps de faire des emplois qui sont peut-être un peu moins intéressants à court terme, voilà, sans faire trop de compromis bien sûr, et on va y revenir. Mais l'idée, c'est que quand on a ce fameux chiffre magique, on a atteint cet objectif-là, ben à ce moment-là, on fait vraiment ce qu'on veut. Si on veut faire du bénévolat, on fait du bénévolat. Si on veut voyager, on voyage. Si on veut aider notre famille, on aide notre famille. Et si on veut partir une entreprise, on peut le faire de la même façon, quoi. Donc voilà, ça, c'est le Y. François, aux questions, je vous laisse continuer.
Tu vois, c'est super intéressant si ce que chose, tu dis là. Non, tu n'oublies rien. Ça me fait transitionner sur la lettre d'après, du coup le C qu'on a rajouté, qui était super important pour nous, dans le sens où on se rend bien compte là avec le FIRE Movement, on a une problématique où la personne va jusqu'à s'oublier pendant une vingtaine d'années, elle va bosser comme une tarée jusqu'à ses 40 ans, elle va pas forcément être dans la bonne façon d'aborder la liberté financière selon moi. Hein. On le voit, hein, ils se crament vraiment au travail et potentiellement, même s'ils savent pas du tout investir, parce que des fois, en fait, ils pensent juste à la partie salariat pour pouvoir faire le chiffre, et ben en fait, ils savent pas forcément investir, ils investissent dans des trucs qui marchent pas, et ils perdent en plus tout leur capital. Alors, je dis pas que c'est tout le FIRE Movement qui est comme ça, mais malgré tout, il y a vraiment cette idée d'être très modeste dans ses dépenses, de vivre, comme tu disais, de manière frugale. Et moi, je pense qu'il est très important quand même que le cœur fasse partie de cette équation, fasse partie de ce qu'on a comme objectif, et que si on s'arrête juste aux chiffres, et ben potentiellement on va, malgré l'atteinte de l'objectif, pas forcément être heureux à avoir atteint cet objectif là. Donc on s'est ajouté un petit coefficient, alors qui est un coefficient qui se veut pas mathématique d'une certaine manière, hein. Ça va être selon vous et votre subjectivité qui va pouvoir noter ce coefficient, mais en fonction de ce que vous allez mettre en place et de la manière dont vous allez atteindre vos objectifs, et ben potentiellement ce coefficient C, qui est le coefficient du cœur, va impacter finalement la manière dont vous allez percevoir l'atteinte de votre objectif. Pour faire clair, peut-être que voilà, vous êtes donné du coup l'objectif des 2,5 millions, mais la manière dont vous allez faire les 2,5 millions, et ben potentiellement vous allez vous sentir comme si vous avez 2 millions sur votre compte en banque. Ou à l'inverse, peut-être que la manière dont vous allez le faire, vous allez vous sentir comme si vous en aviez 3. Et ça, tout va dépendre de la façon dont vous mettez en place les actions qui vous amèneront à votre objectif. Si je suis pleinement heureux, potentiellement, bah, en fait, en créant seulement 2 millions de résultats, et bah, je vais atteindre mon objectif. Parce que, en fait, comme on le dit tout le temps, c'est le process. C'est le chemin qui importe plus que le résultat. Et ça, c'est vraiment très important et qu'on voulait le noter dans cette équation.
Ouais, c'est ça. Christian a vraiment insisté et à juste titre de rajouter ça. En fait, c'est bien dit. Parce que c'est vrai que celui-là est peut-être le plus compliqué. On commence par le plus difficile. Là. Mais c'est vraiment de dire finalement, oui, il y a un objectif. Oui, on essaie comme on disait tout à l'heure, de conceptualiser l'approche. Mais il ne faut pas oublier qu'avant tout ça même, l'objectif ultime, c'est d'être heureux en fait dans sa vie.
Ben oui,
et c'est ça, je pense, que Christian voulait ajouter comme notion. C'est-à-dire que oui, c'est bien un chiffre, ça fait du sens, ok, je comprends le retour des marchés et tout. Mais en fait, c'est un chiffre pour un chiffre, sans qu'il soit rattaché à une notion de satisfaction profonde, bah, en fait, il perd son sens. Christian, est-ce que tu veux élaborer là-dessus?
Ouais, complètement. Bah, je pense que François a déjà bien dégagé la chose. Mais voilà, ouais, et vous deux, d'ailleurs, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est les mathématiques, enfin, je sais pas, il y a ça qui me vient, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut poser une belle formule, aussi sexy soit-elle, si à un moment donné, elle n'est pas connectée à quelque chose qui fait sens pour nous, en fait, on pourrait, paradoxalement, perdre toutes ses plumes en chemin pour au final arriver à quelque chose. Oui, on l'a atteint, mais au final, est-ce qu'on a vraiment gagné et à quel prix on l'a gagné? Donc, bon, ça fait écho avec tout ce qu'on a déjà dit, voilà, le chemin, plus que la destination, ben, bref. Peut-être je rajouterais aussi cette notion que, ben, finalement, ça fait écho aussi à un trio, un triptyque qui a été mis en avant, il me semble, alors j'ai pas les sources, mais il me semble que c'est les Grecs, ils parlaient d'intelligence, de volonté et de cœur. Et que c'était intéressant d'avoir ces trois éléments, parce que sinon, si on focus plus sur l'intelligence, mais qu'on n'a pas la volonté, pas le cœur, ben on va être un intellectuel, mais ça va perdre de sa dimension. Si on n'est que dans la volonté sans l'intelligence et sans le cœur, pareil. Si on n'est que dans l'intelligence et la volonté, mais qu'il n'y a pas de cœur, ben pareil, on va être des volontaristes, intellectuels, etc., mais il va manquer ce cœur dans tout ça. Et d'ailleurs, le cœur tout seul également n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir aussi, et je pense que le reste de la formule y aide, c'est d'avoir aussi ce discernement qui va nous permettre d'apporter aussi des actions intelligentes et puis de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, retrouver aussi cette volonté. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout, en fait. Et finalement, si on revient après sur quelque chose de très factuel et de très mathématique, bah, finalement, l'idée de mettre YC, c'était l'idée que bah, s'il n'y a pas de cœur dans ce que vous allez entreprendre, ça va faire zéro. Et peu importe le Y que vous aurez défini, et bah, n'importe quelle somme multipliée par zéro, ça fait zéro, quoi. Donc, au final, tout le reste de l'équation serait une perte de temps pour vous et puis pour votre projet, quoi.
Ouais,
l'objectif
exactement.
Est 20.
Voire même, vous arrêterez en chemin et vous vous atteindrez même pas le résultat escompté. C'est-à-dire que ça s'arrêtera même avant même de commencer.
Exact. Donc, YC, donc l'objectif financier que vous vous donnez, teinté est vraiment, ou plus que teinté en fait, hein, en correspondance avec un objectif de cœur en fait, hein, qui vous rend heureux, sinon toute l'équation devient nulle, c'est pas nécessaire de continuer plus loin, est égal, alors là on va aller sur les autres paramètres, AX plus Z, ou est-ce qu'on dit moins Z, ça va être plus facile je pense pour les autres.
Ouais, ça dépend en fait, la personne elle le comprendra, plus ou moins Z, en fonction de comment elle le perçoit. Le A, c'est le capital. Donc, pour l'instant, on va rester simple sur le capital, parce que c'est pas la première chose souvent que les personnes pensent. Donc, je vais plutôt continuer sur la lettre d'après, qui est le X. Donc, le A, c'est le capital que vous possédez, hein, le patrimoine que vous avez. Le X, ça va être la performance que vous pouvez espérer des marchés. Et le Z, ça va être les dépenses. Donc, si je reviens sur le X, qui est la première chose souvent que l'utilisateur va avoir en tête. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait cette équation et c'est pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui. C'est que l'erreur classique, ça va être de se concentrer trop souvent sur son X et de dire je veux performer. Donc bah, pour performer, il va falloir que j'aille chercher du rendement. Et en fait, je vais faire du rendement à tout prix en oubliant la base de tout investisseur qui est le risque. En fait, le risque va impacter complètement ma performance, d'accord ? Et ça, c'est un peu quelque chose qui est caché, c'est-à-dire que c'est relié directement à mon X. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément dans l'équation là qu'on note, mais en fait, c'est super important de l'avoir en tête. C'est que plus vous allez vouloir performer, et plus vous allez augmenter votre risque, et donc potentiellement faire crasher votre capital. Et ça, c'est essentiel, parce que moi, j'ai vu deux types de personnes quand ils commençaient à investir. La première type de personne, ça va être les personnes qui sont plutôt frileux, ils ont une aversion au risque. Et du coup, ils vont commencer avec des petits montants et ils vont aller faire potentiellement de la bourse, un peu comme un bon père de famille. Ils vont aller chercher des actions très simples qui vont, pourquoi pas, leur générer un dividende. Ils vont faire les choses de manière très peu risquée. Et ce qui risque de se passer là-dedans, c'est que ils vont finalement pas avoir un retour sur investissement assez important. C'est-à-dire que là, ils se sont concentrés vraiment sur l'idée de limiter leur risque, et du coup, forcément, leur performance va pas être à la hauteur de leur espérance. C'est-à-dire qu'ils ont un Y qui est inatteignable par rapport au X qu'ils veulent. Et ce type de personnes, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils vont se dire « Ouh là là, je vais jamais atteindre mes objectifs !» Et du coup, bizarrement, ils vont aller chercher un risque maximum du jour au lendemain. Ils vont se dire « Bon bah, pour pouvoir réussir à atteindre mon objectif, finalement je me suis complètement gouré, il faut que j'aille faire un X de fou. » Et donc, ils vont peut-être faire un all-in sur les cryptos, typiquement. Et après, le deuxième type de personnes que j'ai rencontré, c'est plutôt comment moi j'ai fonctionné. C'est-à-dire qu'on a un petit capital, c'est souvent ceux qui ont un petit capital, et vont dire bah, « Tout de suite, en fait, moi je vais aller chercher de la performance. » Parce que je sais qu'avec le capital que j'ai, j'atteindrai jamais mes objectifs. En fait, ils court-circuitent la première étape. Ils disent direct « Non mais en fait, j'ai 1000 balles pour réussir à finalement atteindre mon objectif qui est l'indépendance financière. Avec 1000 euros de capital, je vais jamais y arriver. Donc il faut que j'aille chercher de la performance. » Et ils font all-in dans le trading court terme, dans les cryptos encore une fois, ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est vraiment là-dessus moi que je voulais appuyer pour cet épisode. C'était surtout ça qui m'importait à bien faire partager aux auditeurs, c'était l'idée de attention, parce qu'en fait, en faisant ça, vous pouvez potentiellement faire de l'argent, hein, parce que ça arrive. Hein. Vous avez mis énormément
sur
de risques.
Sur un malentendu.
Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Donc vous allez faire peut-être un gros capital d'un coup. Sauf que la manière dont vous le faites est très risquée et que potentiellement, vous risquez de tout perdre sur le long terme. Et que le plus important dans cette équation, ça va être le A, ça va être le capital. Sans ça, vous allez vous manger les doigts parce qu'en fait, on le voit bien, hein, dans le premier cas, la personne, souvent, elle a un peu de capital, la personne qui est, enfin, potentiellement en tout cas, qui est un peu frileuse, qui est plutôt sujette à l'aversion au risque, elle va plutôt avoir un bon capital et donc du coup, elle peut se permettre de prendre son temps dans un premier temps et puis après, elle se dit « Ah mince, en fait, finalement, je ne vais pas réussir à atteindre les chiffres que je veux. » Cette personne-là, elle a intérêt à travailler son X parce qu'en fait, son capital est déjà bon. Malgré tout, si elle veut vraiment performer, il faudra qu'elle focus sur son A, in fine. Et pour la deuxième personne, c'est d'autant plus important qu'elle travaille sur son A dès le début. C'est-à-dire, il faut qu'elle arrête ses conneries à se dire « je vais faire un all-in en trading CFD court terme, je vais faire du 1% par jour et devenir millionnaire dans 3 jours bon, ». Je pense que si vous nous suivez, vous avez compris que c'était pas du tout la manière dont ça fonctionne. Donc pour moi, c'est vraiment ce point-là qui est essentiel et qui a à retenir ici. La performance, pour vous donner quand même un ordre d'idée, réussir à battre le marché, c'est déjà quelque chose qui est très, très, très complexe. C'est-à-dire qu'il y a plein de recherches qui ont été faites qui montrent que la gestion passive, c'est-à-dire de prendre finalement le SP500 en tracker ETF et à le garder sur 30, 50, 100 ans, c'est beaucoup plus rentable que d'essayer de battre le marché. Et ça, je pense qu'on l'oublie de manière très rapide. Et on se dit, ah ouais, je vais aller faire du stock picking, je vais prendre des actions à droite, à gauche, je vais me mettre un peu dans les cryptos, je vais faire de la gestion pilotée. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait les dernières fois, c'est que, en fait, on est face à des personnes sur le marché qui sont bien meilleures. Et que la meilleure solution, parfois, c'est juste de temporiser et de jouer safe. Donc la performance que vous pouvez vous attendre sans trop de risques, en faisant un permanent portfolio, c'est d'essayer d'aller chercher à peu près ce que le SP500 retourne depuis les 80 dernières années, c'est à peu près environ 8% net, si je dis pas de bêtises, on doit être dans ces eaux-là. Et si vous travaillez un peu mieux et que vous allez chercher un petit peu plus, c'est-à-dire que vous diversifiez, vous faites de l'IMO, vous faites de la crypto, vous faites un peu de tout et puis vous comprenez ce que vous faites, là vous pouvez aller chercher peut-être un X qui est un peu plus intéressant, on peut peut-être parler de 20-30% sur quelques années, hein, pas toutes les années, mais sur certaines années en tout cas vous pourrez aller chercher même potentiellement des pourcentages plus intéressants que cela. En moyenne, je dirais aller chercher du 20% par an, c'est quand même déjà très compliqué. Très compliqué. C'est quelque chose
c'est
qui
déjà,
est jouable,
c'est déjà
mais c'est déjà très compliqué. Ouais. Voilà.
Après, il y a la notion aussi de...
Ça permet aux gens de bien s'ancrer les réalités, parce que je me permets aussi de mettre le risque qui est à côté. Le SP500 qui rapporte 8% en moyenne, son risque potentiellement, c'est moins 80% sur les pires crises. Entre 50 et 80% pour un bear market. 1920, c'était moins 80. La crise des subprimes, je crois qu'on était à moins 60, moins 70. Donc, bien avoir en tête que le risque est juste dingue, déjà, juste avec cette performance-là. Donc, imaginez le risque que vous pouvez avoir avec 20%. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut maîtriser les risques en se diversifiant, en ayant un portefeuille qui va... consolider dans les moments de baisse, en fait il va moins baisser, mais par contre dans les moments de hausse il va aussi moins augmenter, mais en jouant sur les différentes classes d'actifs on peut réussir à aller grappiller des points à gauche à droite. Mais voilà, prenez conscience quand même du risque qui est associé à une performance et que vous pouvez pas y couper. En fait, il y a un moment donné, ça c'est gapé. Et donc du coup, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez atteindre vos 2 millions dans 5 ans, et bien forcément va falloir jouer sur votre A. Vous pourrez rien faire avec votre X si ce n'est un heureux hasard, et il n'y a que ça qui pourra vous permettre de potentiellement atteindre votre objectif avec un X qui explose. C'est juste du hasard. Alors parfois on peut se positionner aux beaux endroits pour avoir ce hasard là personnellement, nous c'est ce qu'on a essayé de faire avec les cryptos et c'est ce qu'on continue à faire, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez tabler dans le temps. C'est pas quelque chose que vous pouvez espérer reproduire systématiquement. Et ça, je veux vraiment que la personne qui est en face le comprenne, parce que sinon, ça serait trop simple, en fait. Juste, j'ai besoin d'aller faire un x2 et c'est tout.
Il y a la notion de temporalité aussi. C'est vrai que c'est important de le mentionner, c'est-à-dire dans combien de temps on souhaite atteindre notre objectif.
Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est de dire quand j'aurai 40, 50 ans, donc dans, je ne sais pas, peut-être dans 20 ans, 25 ans pour une personne, ou est-ce que c'est dans 5 ans, effectivement, si vous mettez l'objectif plus haut. À ce moment-là, forcément, il faut bien comprendre que où je vais avoir besoin de trouver du capital. Donc, est-ce que c'est en travaillant plus, en changeant d'emploi, des fois, il faut reculer d'un pas pour mieux avancer, donc peut-être reprendre une formation pour avoir certaines compétences qui nous permettent d'accéder à d'autres postes, mieux rémunérés, etc. Mais le X, effectivement, il y a un cap à un moment donné, donc ça c'est important. Et il y a la notion de volatilité aussi, que j'aimerais bien rappeler rapidement, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais c'est-à-dire que aussi quand on a un petit capital, on est dans un autre mindset. Et on peut supporter une certaine volatilité. C'est-à-dire que si j'ai 1 000 $, que je perds 50%, bon, j'ai perdu 500 $. Je veux dire, même sur un revenu moyen, un revenu de base, là, le SMIC ou peu importe où on est, généralement, c'est plus que ça. Donc, même dans notre tête, on peut se dire, bon, on peut se refaire assez rapidement. Donc, le premier objectif, ça peut être donc déjà de gagner de l'argent. Mais quelqu'un qui a, après un certain capital, lui, son objectif peut changer, et à ce moment-là, son objectif, c'est de garder l'argent qu'il a. Et à ce moment-là, lui, il veut plus de volatilité comme ça. Et surtout, plus on avance dans notre échelle temporelle, et moins on veut de volatilité. C'est-à-dire, quand on est jeune, on peut se le permettre. Là, je vois le fils de ma blonde, il a 17 ans, il va all-in sur la crypto, ça ne me choque pas. C'est, à la limite, c'est même presque intelligent, je trouve, parce que tu as 16 ans, tu as un taux au-dessus de la tête de toute manière. Concrètement, oui, travaille pour aller chercher cet argent. De l'argent perdu, c'est de l'argent perdu, on est d'accord. Mais s'il y a un bon moment pour prendre des risques, pour augmenter son A, justement, bah c'est maintenant. Si tu es à 45 ans et que là, tu commences à gamble, genre ton épargne de retraite, là, déjà, c'est un peu moins intéressant, clairement. Donc cette volatilité-là, elle va être importante, et c'est ce qu'on parle de diversification, de concentration de notre portefeuille. Et c'est sûr que plus on est diversifié, plus on va réduire la volatilité, plus on est concentré, et plus à l'inverse, on va l'augmenter, donc en bien comme en mal. Donc ça, il faut l'accepter. Christian, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on introduise la notion de dépenses ?
Peut-être juste un petit rappel sur le fait que... Et cette formule peut justement nous y aider, hein, mais c'est de se dire que En effet, on peut avoir une stratégie qui est adaptée en fonction de son niveau de vie, en effet, son échelle de temps, de ses objectifs, etc. Mais de se rappeler aussi que, du coup, c'est, enfin, comment dire, c'est se faire vraiment un contrat avec soi-même et de se dire, voilà, c'est vraiment de temps à temps, parce que si je suis pas prêt à entreprendre les bonnes stratégies aujourd'hui, peut-être qu'après, je vais continuer à avoir les mauvaises attitudes. Même par la suite, quoi. Comme on
Ouais.
l'avait déjà échangé dans les épisodes précédents.
Ouais, c'est ça.
Donc.
C'est que, par exemple, ce que tu viens de dire, Julien, je pense que c'est tout à fait vrai. Moi, je suis toujours du style à donner cette information-là. Parce qu'en effet, bah, s'il perd 1000 piastres, c'est pas grave. Il pourra refaire 1000 piastres, il retravaille un été et c'est bon, quoi. C'est de la perte qui est acceptable pour lui. Et ça, je le comprends totalement. Et en même temps, bah, ça lui apprend à faire peut-être un mauvais move. À part s'il a capté ce que je disais tout à l'heure, qui est que c'est possible que ça marche, mais c'est possible que tu perdes tout. Si là il a compris ça et
Il faut vraiment l'accepter, ouais. C'est ça.
qu'il est en mode, je vais pas pouvoir reproduire ça X fois dans ma vie, mais peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie. Ok, là c'est bon. Là il a tout capté. Là il a tout compris et il peut y aller.
Même la notion de risque, là, si on oublie l'investissement 2 secondes, moi je le trouve qu'on le voit même dans sa vie professionnelle. Bon, après il y a une distinction entre professionnel et financier, mais d'une façon générale, quelqu'un qui est jeune. Tu prends des risques, tu vois, comme par exemple, moi, quand je suis venu au Canada, j'ai pris un risque de ne pas rester dans mon bureau d'études, de finalement perdre un peu l'intérêt de mon bac plus 5 qui
Tout à
valait quelque
fait.
chose en France, qui au Québec valait rien parce qu'il fallait que je repasse des certifications et des machins. Donc, il y a eu une prise de risque à ce moment-là. Et quand on est jeune, on peut se permettre de le faire. Donc, et je pense que les gens qui sont le mieux récompensés, alors encore une fois, il peut y arriver un drame, c'est sûr, mais de façon générale, quand on est jeune, on peut se permettre ces prises de risque-là, qui peuvent être généralement payantes sur le long terme quand c'est fait intelligemment et en conscience. Tu as raison de le dire, de ne pas développer des mauvaises habitudes, surtout là pour le coup par rapport à l'investissement, on peut vite prendre des mauvais plis. Donc voilà. Et c'était plus cette notion-là que je veux dire de risque.
C'est
Ouais,
clair.
tout à
Et
fait.
puis à ça, je rajouterais cette notion de sens. Encore une fois, je sais que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi, mais par rapport à ce que tu exprimais, Julien, juste il y a quelques secondes, prendre des risques dans certaines situations, si c'est sortir d'une situation qui n'a plus de sens pour soi, peut-être que sur le papier, c'est complètement illogique, et peut-être qu'à un autre niveau de conscience et un niveau qui est plus au niveau du cœur, en fait, c'est juste une question de survie, en fait. C'est une question que, pour moi, c'est le risque, c'est d'y rester, en fait. Parce que souvent, on prend le risque à partir, à sortir d'une situation, mais des fois, on risque plus à ne pas changer la situation qu'à la modifier. Et souvent, c'est quand on est vraiment au pied du mur qu'on se met à réaliser cette situation qui fait qu'il faut qu'elle change, quoi. Et donc voilà, c'est important d'avoir ça aussi en tête.
Ouais, non, absolument. Et peut-être juste avant de passer aux aides, donc la dépense, on avait dit aussi que donc le A, on peut le comprendre comme le revenu actif, hein, on l'a
Oui,
compris
tout à
maintenant,
fait.
et X peut-être comme le revenu passif. Et après, il peut y avoir des optimisations, c'est-à-dire que on peut prendre un exemple, si on va sur, on change de pays, peu importe où on habite, si on trouve que le marché de l'emploi est plus dynamique dans un autre pays. On peut très bien imaginer en fait de déménager, de faire une immigration pour aller chercher un A plus intéressant parce qu'on a accès à d'autres emplois. Donc moi typiquement, je le vois très bien au Canada. Il y a plein d'exemples autour de moi de gens très jeunes qui arrivent à avoir des postes à responsabilité, à faire des gros salaires. La courte expérience que j'ai eue en France, c'est pas aussi facile. Parce que déjà, il y a beaucoup plus de gens forcément sur le marché, donc il y a plus de compétition, on est vraiment au diplôme, on est vraiment à l'ancienneté, il faut que tu aies un certain âge dans l'entreprise, machin. Ça, c'est le truc traditionnel. Après, clairement, les startups, tout ça, c'est en train de tout changer, ça, je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, très facilement, moi, je pense qu'il est plus facile de gagner de l'argent, ou même quand je pense à ceux qui vont en Suisse. Donc, tu habites en France, tu vas en Suisse parce que tu sais que là-bas, les salaires sont plus élevés, bah, clairement, tu joues sur ton roi. Et après, le X, eh ben, c'est. Donc le revenu passif que tu peux dégager de ta stratégie d'investissement, et ça on peut imaginer des optimisations fiscales. Donc, on a parlé beaucoup d'immobilier quand François est venu au Canada. Il y a des petites distinctions, on ne va pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais il y a des distinctions importantes entre l'immobilier au Canada et l'immobilier en France, qui dit que finalement, en France, ben, contrairement à ce que souvent on se dit que la France, voilà, c'est un pays qui est compliqué pour faire de l'argent, il faut forcément aller ailleurs et tout, en fait, au niveau de l'immobilier, c'est presque un paradis fiscal, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, il faut comprendre les règles. Encore une fois, on n'en parlera pas plus en détail ici, mais François nous en racontera plus et de sa propre expérience dans un autre épisode. Mais ça peut être intéressant de dire, par exemple, moi je vais au Canada parce que j'ai accès à cet emploi-là, mais je peux très bien investir en immobilier en France. Donc on peut délocaliser finalement un des paramètres de l'équation. Voilà, on trouvait ça intéressant, cette notion-là aussi. On pilote l'équation et on a des sliders sur lesquels on peut jouer pour atteindre notre objectif plus vite, quoi.
Tout à fait. Et puis sur le capital, je dirais qu'il y a aussi potentiellement la notion de diversifier ses revenus. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs revenus actifs. Je pense que ça, c'est important et c'est là-dessus que moi je voulais appuyer aussi. C'est dire, bon, bah ok, ma performance, elle va être gapée à un moment donné. Donc il va falloir que j'aille chercher du A. Comment je vais chercher du A? Je vais chercher du A, donc, comme tu disais, Julien, peut-être en allant dans un pays qui va mieux me rémunérer. Je vais peut-être prendre des formations qui vont permettre d'atteindre des niveaux de compétences qui vont permettre de mieux me rémunérer. Donc je vais investir sur moi pour pouvoir avoir un retour sur investissement par la suite. Je vais pouvoir créer, donc là on parle vraiment du salariat, je vais pouvoir créer du coup à côté peut-être une entreprise. Donc là c'est un autre salaire actif qui va pouvoir tomber. Voilà, donc je peux pas non plus être au four et au moulin, on est bien d'accord, mais je peux potentiellement réussir à augmenter mon A en allant me multiplier mes sources de revenus et en me posant les bonnes questions. C'est-à-dire en me disant, bah, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle valeur je peux apporter aux gens? Et en fait, pour moi, on revient vraiment là-dessus. C'est pour moi la clé. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin et qu'est-ce que je peux apporter à travers mes compétences? Si on trouve ça, on va trouver là où on peut faire le plus d'argent par rapport à sa personne, hein. Parce que moi, ce que je peux faire, c'est pas la même chose que ce que toi, Julien, tu peux faire, c'est pas la même chose que ce que Christian peut faire.
J'allais dire, et donc, en lien avec nos forces.
Exactement. Et ça, là où on va se positionner, c'est là où on pourra avoir la plus grosse source de capital qui va pouvoir être réinvesti derrière et nous générer du revenu passif qui va refaire grossir notre capital, etc. Donc là, c'est vraiment les intérêts composés et ça peut vite faire grossir les choses. Et ça, tu l'as dit aussi, je voulais le revenir dessus, et je pense que c'est super important. En effet, si on ne peut pas non plus trop augmenter son A, et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le temps, on va jouer sur le timing. Et donc, du coup, si je me donne 1 ou 2 ans de plus, avec les forces des intérêts composés, potentiellement, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Et ça, c'est important aussi de l'entendre. Donc, si on joue sur le A, le temps... Là, on va commencer à pouvoir aller chercher son Y.
Non, c'est ça exactement, et tu as raison. L'idée, c'est que cette équation, c'est pas de vous vendre du rêve. Au contraire, c'est d'être ultra pragmatique et même peut-être de nous aider à regager nos rêves. Donc, c'est important de rêver grand. On peut partir de là, mais après, quand on retombe dans la matière, on dit bon, bah aujourd'hui, mon salaire, c'est quoi? Aujourd'hui, ma stratégie d'investissement, c'est quoi? Et jusqu'où je pourrais aller dans la limite du raisonnable et de ce qui se fait autour de moi. Imaginons pas qu'on va devenir des magiciens du marché. Raisonnablement, qu'est-ce que je peux aller chercher? Et est-ce que ça fonctionne? Et c'est là qu'on introduit maintenant la notion Z, qui pour moi est très importante, c'est la notion de dépense. C'est-à-dire qu'on a un autre levier sur notre richesse, c'est la quantité d'argent qu'on dépense, en fait. Tout à l'heure, je vous l'ai envoyé en story, on pourra l'utiliser pour faire la promotion peut-être ou de cet épisode ou d'un autre, on verra, parce que je pense qu'on reparlera de dépenses aussi. Mais t'avais un gars qui faisait du jumbe, tu sais, puis d'un côté, t'en as un, il fait genre clac, 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 tu sais, mais genre 2-3 tapes, et puis c'est le income, et puis l'autre à côté, il tape comme un ouf, et puis c'est les dépenses. Et ça m'a fait rigoler, parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as vraiment cette notion, ok, qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que je garde? Parce que derrière, j'ai un train de vie qui fait que je dépense comme un fou. Et surtout qu'on est dans une société où c'est carrément mis en avant par les réseaux sociaux et autres. Tu vois, on est dans un lifestyle. Donc, à un moment donné, moi, quand je regarde autour de moi tous les gens qui sortent régulièrement, qui achètent des nouveaux vêtements, qui achètent des nouveaux produits tech, qui changent de voiture, qui achètent des Tesla, qui achètent des machins, des ci, des là, à un moment donné, il y en a certains qui font des bons salaires. Et pourquoi pas? Mais je ne pense pas que tout le monde fait 100 000 dollars annuels, tu vois. Donc, à mon avis, la majorité des gens, je ne veux pas rentrer dans des chiffres ou quoi que ce soit, là, l'idée, ce n'est pas de toucher personne, Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, malgré tout, ok, moi c'est dans ma croyance, qui vivent au-dessus de leurs moyens, clairement.
Moi, je vais te donner un chiffre. Si tu veux atteindre tes objectifs, tes dépenses, elles ne doivent pas dépasser 1% de ton patrimoine.
Alors voilà, déjà juste là, faites les calculs, combien vous avez en épargne. Est-ce que c'est, je ne sais pas, à 30 ans, je crois qu'il faut avoir 50 000, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais mettons que ça soit 50 000 ou 100 000, allez, rêvons grand. 100 000 à 30 ans, tu as 100 000 d'épargne. Je ne pense pas que ce soit tous les trentenaires qui ont ça. Donc, tu es en train de me dire que tes dépenses ne devraient pas dépasser 1000.
1000 balles. 1000 balles.
Donc, tu achètes le dernier iPhone, bam, c'est brûlé. Déjà là, tu n'es pas
fini.
Bon. C'est fini. Alors, on ne parle pas des vacances, on ne parle pas des machins, et on ne parle pas des cartes de crédit. Parce qu'en France, encore, c'est moins pire, mais je le vois ici, plein de gens qui sont en train de détruire complètement leur code de crédit, qui utilisent justement le crédit parce qu'ils disent je ne gagne pas assez, c'est pas grave, crédit, je paye par intérêt. Et en fait, tu fais jouer les intérêts composés contre toi et tu es en train de détruire complètement l'équation et tu n'atteindras jamais ton rêve, en fait, littéralement.
Mais c'était trop bien ça. Tu nous avais raconté l'histoire d'une personne avec qui tu avais communiqué là-dessus. La personne n'avait même pas compris cette notion d'intérêt composé. Elle n'avait pas du tout
plein
compris.
Plein de gens qui ne comprennent pas.
C'est fou ça. Moi, ça me rend fou.
Moi, je l'explique tout le temps comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'explique au début les intérêts composés parce que vu que c'est quelque chose d'exponentiel, le cerveau n'est pas capable de capter. Donc, tu as des calculatrices qui existent sur Internet. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker. C'est quand même assez drôle. Vous dites combien j'ai aujourd'hui, combien je peux mettre par mois.
Avec la calculatrice qu'on va mettre.
Ah, ou la calculatrice que tu vas partager. Parfait.
Voilà, c'est ça.
Donc, combien j'ai aujourd'hui, combien je suis capable de mettre par mois et puis, du coup, combien ça va me faire dans 20, 30 ans avec un retour de 4, 5, 10%. Tu peux faire des tests. Et en gros, si avant de faire marcher la calculette, tu dis combien tu penses que tu vas avoir, la plupart des gens vont se tromper. Et là, on part, mettons, dans le meilleur scénario, sur un retour de 10% annuel. Imaginons maintenant que quand tu prends un crédit, sur les cartes de crédit ici, généralement, c'est plus que 20% d'intérêt à payer. Donc là, tu es en train de doubler la force des intérêts composés, mais pas pour toi, contre toi. Et encore une fois, ce n'est pas deux fois pire parce que c'est exponentiel. Donc, tu peux te démolir complètement. Et l'usage de la calculatrice, je la trouve intéressante parce que ça nous permet de nous projeter et de ramener finalement à la perspective de temps présent et de dire « Ok, mais aujourd'hui, ce que je suis en train de faire là, il y a Warren Buffett qui disait ça dans son livre et moi, ça marque et j'y pense tout le temps. Alors pourtant, je ne suis pas irréprochable. J'achète toujours des trucs. Voilà, je ne suis pas un moine non plus. Mais malgré tout, je le fais. C'est-à-dire que quand je dépense quelque chose, mettons, je vais prendre un exemple encore une fois, 1 000 $, il y a deux choses que je me dis. La première chose que je me dis, c'est est-ce que je préfère avoir cette chose-là aujourd'hui ou est-ce que je préfère avoir, et là, on va prendre un chiffre simple, 10% de revenus passifs tous les ans jusqu'à la fin de ma vie. Puisque ces 1 000 $, si je les investis, vous l'avez compris maintenant, si mon X c'est 10%, okay, ça peut être moins, bon, peu importe, on prend un chiffre rond, ça veut dire que chaque année, je vais faire 100 balles. Donc dans 10 ans, j'ai récupéré mes 1 000 $, même un peu moins avec les intérêts composés. Donc qu'est-ce que je préfère avoir aujourd'hui? Est-ce que je préfère avoir le dernier iPhone ou est-ce que je préfère qu'on me donne 100 balles tous les ans jusqu'à la fin de ma vie? Et la deuxième chose que je me dis, c'est je multiplie en fait ce chiffre même, alors avec la crypto, je sais que c'est encore une fois, là, l'idée c'est pas forcément réaliste, mais c'est plus pour grossir un peu les traits et me faire percuter. Aujourd'hui, voilà, un x10 sur je sais pas combien d'années en crypto, c'est pas déconnant, tu vois, sur certains projets. Donc, je me dis, est-ce que je préfère dépenser 1000 balles aujourd'hui ou est-ce que je préfère avoir 10 000 balles plus tard? C'est une autre façon de le voir par rapport aux 10%. Et donc, en fait, ce que Warren Buffett il disait, aujourd'hui, vous ne dépensez pas 1000. Vous pensez en fait 10 000 potentiellement sur un horizon de temps. Et cette notion de dépense temporalisée, je la trouve géniale parce que c'est exactement ça. Alors après, tu as l'inflation et tout, mais voilà. En gros, c'est intéressant. C'est intéressant, je pense, d'avoir cette réflexion et de dire que finalement, demain, je ne parle pas de changer de job, je ne parle pas de trouver la martingale sur les marchés. Demain, je peux être deux fois plus riche si je réduis mes dépenses par deux. Et ça, j'ai un levier dessus. Alors, il y a des limites. Il faut manger, il faut avoir un toit et tout. Mais on a quand même un méchant levier dessus qu'on peut jouer dès maintenant en étant...
Je pense que c'est d'ailleurs la première chose. Pour moi, c'est d'ailleurs la première chose à faire. Parce que quand on est au tout début, c'est souvent ça qui nous tire vers le bas. Après, quand on commence à avoir un bon capital, comme je disais, tant qu'on reste dans les 1, 2, 3% de son patrimoine, on peut se permettre des dépenses du coup qui sont peut-être un petit peu plus insane pour la majorité des gens qui sont autour de nous. On peut déjà moins se prendre la tête, d'accord? Forcément, on sera plus à 10 balles près, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, ça, c'est que quand on a atteint un patrimoine qui est vraiment relativement important. Comme je disais, c'est quand on a déjà atteint le million, les 2 millions quasiment de patrimoine. Je dirais même de patrimoine net. Parce que si je fais un bien IMO à 500 000, c'est bon, la personne va se dire j'ai 500 000 balles de patrimoine et puis elle va commencer à dépenser n'importe comment. Donc je préfère rajouter le net. Parce que si elle n'a pas remboursé son bien IMO, elle n'a rien fait. D'accord ? Elle n'a pas 500 000 balles de patrimoine, elle a zéro. Elle doit 500 000 balles à la banque. Je préfère quand même être le plus concret là-dessus. Donc quand j'atteins 2 millions, là il n'y a pas de souci, tu peux commencer à dépenser un peu plus, tu peux commencer à être un petit peu plus ok, sans partir en couille, hein, on est bien d'accord, sans dire je vais dépenser tout ce que j'ai. Encore une fois, on reste dans ce 1%, 2%, 3% max de son patrimoine. Par contre, au tout début, si on arrive à faire cet effort-là de diminuer un petit peu ses dépenses, et ben en fait, on va aussi augmenter son A. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est exact. Que le A va augmenter, du coup, on va pouvoir générer de la performance, on va pouvoir régénérer des intérêts composés, etc., etc. Donc ça, c'est important. Mais encore une fois, et là, Christian, je pense, pourrait faire ce commentaire-là, il faut qu'il y ait le sens qui va avec. C'est-à-dire que si je diminue mes dépenses, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec le FIRE Movement, où en mode je me serre la ceinture, et comme tu disais Julien, à la fin, je mange que des pâtes tous les jours pour pouvoir atteindre mon objectif, bah, y a peut-être un bug là. Là, je suis peut-être pas dans la bonne vibe pour pouvoir aller atteindre, dans la bonne énergie, pour aller atteindre finalement mon objectif. Donc,
Il faut prendre ça en compte quand même un minimum, ça c'est
et
sûr.
Et voilà, c'est ça. Donc, est-ce que je me prends des vacances? Est-ce que je me prends pas des vacances, par exemple?
Ouais, mais on s'entend que ce qui coûte le plus cher, donc si on rappelle les trois postes de dépenses principaux, c'est l'hébergement, le transport et puis la bouffe. Donc, sur la bouffe, on s'entend que généralement, là où on dépense le plus, c'est sur des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour notre santé.
Non,
que
ça soit, je sors en bar, je prends des pizzas,
l'alcool,
des machins.
Voilà, tous les trucs gras, saturés, le sucre et le machin. Déjà, tu peux réduire là-dessus, tu vas faire du bien à ta santé, tu vas largement réduire tes dépenses. Le transport, ben moi, je favorise les transports en commun, de façon générale. Alors, peut-être qu'on ne peut pas, ça dépend où on habite et tout, mais je pense que si vous habitez en ville, peut-être que c'est moins pratique des fois. Quoique, franchement, aujourd'hui, moi, je vois juste le côté négatif des voitures. Donc, moi, je fais tout en métro, ça me coûte 90 balles par mois et c'est réglé, terminé. Et encore, c'est assez cher à Montréal. Et après, le dernier, c'est l'hébergement. Bah, c'est peut-être de downgrader. Ça veut dire que oui, peut-être que tu n'auras pas tout de suite ton grand balcon et ton petit jardin. Peut-être que tu peux vivre un peu plus loin. Moi, je suis assez excentré du centre-ville. Parce que voilà, mais ça se fait en 30 minutes de métro. C'est 30 minutes que je peux employer pour écouter des podcasts ou lire des livres. Et puis, ça me permet de baisser mon loyer peut-être de 200-300 $ facilement par mois par rapport à si je restais au centre-ville. Et ces 300 piastres-là, par mois, sur 12 ans, bon, ben, ça commence à faire une somme. Et sur 5-10 ans, ben, ça fait une méchante somme que j'ai investi tout ce temps-là, ce qui fait que dans 10 ans, je ne serai pas à la même place que si j'avais décidé aujourd'hui, allez, fais-toi plaisir, on vit qu'une fois, et puis du coup, on va prendre un appart un peu plus cool. Donc, c'est vraiment une balance, et là, ça sera à vous de trouver votre réponse, parce qu'il n'y en a pas, hein, ce serait trop facile, c'est de dire, oui, il faut vivre, c'est vrai. Moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, donc il faut vraiment kiffer sa life. Et en même temps, les petits sacrifices qu'on peut faire qui ne nous coûtent pas tellement finalement, et parce qu'on peut faire un travail sur soi et on peut remettre en perspective à quel point c'est important pour moi, ou est-ce que c'est important peut-être aux yeux des autres. C'est Jim Carrey, je pense, qui avait dit, si vous n'êtes pas capable de réduire drastiquement vos dépenses pendant un an pour atteindre votre objectif financier, c'est que vous donnez beaucoup trop d'attention à ce que les autres pensent de vous. Parce qu'il y avait ce côté que bah, si je réduis, bah, j'aurais peut-être une voiture de merde, je serais sapé comme une merde et tout. Et en fait, est-ce que c'est grave? On s'en fout. Tu peux porter le même t-shirt troué, bon voilà, à moins que ça t'empêche d'avoir un job parce que t'as l'air d'un itinérant, tu vois. Mais dans la limite du raisonnable, toujours, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Christian, ouais. tu veux réagir là-dessus?
Ouais, j'ai plein d'idées là, de ce que vous avez évoqué.
Je t'ai vu prendre des notes, ouais.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses. Alors, la première qui me revient pour redonner peut-être encore une autre clé de lecture sur ce que tu as évoqué, Julien, par rapport à comment je dépense. Alors, il y a un chiffre que tu as donné qui est très clair. Peut-être là, ça sera moins clair, mais ça donne quand même une façon de voir les choses. Tu avais partagé une fois en mastermind le need, le like et le love.
Ouais.
Je sais pas si ça te parle.
Ouais. Ouais, absolument.
Est-ce que tu veux en...
Tu peux expliquer le concept,
ouais,
si
je
tu
peux
t'en
expliquer.
rappelles? Non, non, je te laisse
Alors,
le...
tu me reprendras si j'ai pas tout dit, mais... Il y avait cette notion de est-ce que c'est de se poser déjà la question est-ce que j'en ai besoin, le fameux need, donc est-ce que c'est un vrai besoin? Parce que bien souvent, le marketing, les entreprises qui font du marketing sont fortes, hein, elles arrivent à nous faire passer nos besoins pour des envies, et puis ou plutôt nos envies pour des besoins, et donc du coup
Ouais,
nous
c'est
faire
ça.
croire que voilà, on en a besoin, alors qu'en fait non, on en a surtout envie. Et ça, c'est subtil, donc de bien faire la distinction et avoir un juste discernement sur ces deux choses. Après, il y a le like. Donc là, c'est juste, bon, bah, j'aimerais bien ça, mais c'est pas non plus. Voilà, je crois que c'est la petite crise un peu, hein, c'est pas vraiment la chose la plus importante. Et puis il y a le love, il y a vraiment ce qui me met en joie, quoi, qui va vraiment peut-être toucher des choses extrêmement fortes. Est-ce que c'est ça ou pas?
Ouais, c'est absolument ça. Donc
C'est
de l'ordre
absolument ça.
de la passion, les choses comme
De la
ça. Ouais,
passion, voilà, c'est
effectivement.
ça. Et c'est pour ça que du coup, après, bah, je rebascule sur ce qu'a dit François. Oui, en effet, dans les dépenses, il peut y avoir du sens. Parce qu'en effet, peut-être que ce Z, je vais le dépenser, soit peut-être dans l'acquisition d'une connaissance. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup d'investissements dans mon développement personnel. Nous trois d'ailleurs, hein, dans ce qui est important pour nous. Je pense à toi, Julien, dans la photographie. Je pense à toi, François, dans l'investissement. Et aujourd'hui, ben, potentiellement, ça a pu permettre aussi d'amplifier votre A, parce que nouvelles compétences dans la photographie, nouvelles compétences dans la façon d'acheter un appart et d'être rentable sur l'opération, etc. Donc, je pense qu'il peut y avoir des fois, et ça peut pas être paradoxal, une dépense au niveau du Z, mais bien employée dans vos valeurs hautes, dans ce qui est important pour vous, au final, ça peut... Finalement, peut-être pas sur du court terme, mais sur du long terme, si après vous mettez des actions, parce que la connaissance sans action, on est bien d'accord que ça sert absolument à rien, mais ça peut vous permettre de gagner du temps, de compresser le fameux temps pour atteindre votre Y, et vous aussi vous nourrir, hein, dans ce qui est important pour vous. Je sais que dans des fois des objectifs smart, il y a des fois, bah, je pense à David Laroche, une fois ça m'avait marqué au tout début quand il avait commencé sa chaîne YouTube, il disait qu'on pouvait se donner une récompense quand on avait atteint son objectif, et des fois, cette récompense pouvait être à l'opposé finalement de l'objectif qu'on visait. C'est-à-dire que si j'ai un objectif de perte de poids, bah, ma récompense, ça pouvait être de m'offrir un resto, de m'offrir une glace. Ça paraît paradoxal, et pourtant ça peut montrer à son cerveau... De se dire, bah, hey, tu vois, quand tu as atteint un objectif, je te fais plaisir. Et donc, du coup, j'associe du plaisir à l'atteinte de l'objectif. Alors, après, faut, en toute. Enfin, voilà, avec raisonnabilité, parce que si on n'est pas raisonnable, bah, voilà, du coup, on fait n'importe quoi, et puis ça annule tout ce qu'on a fait auparavant. Mais là, ça pourrait être aussi, bah, voilà, de se faire un plaisir qui marque le coup. Mais au moins, c'est contrôlé. Et là-dessus, je voudrais finir
Et
avec cette notion de. Ouais, dis-moi.
j'allais dire, et de delay, de retarder, donc on prend bien la
Exactement.
récompense après avoir atteint l'objectif.
Exactement. Et c'est
Parce que
ça que
souvent je vois
j'allais.
l'inverse,
C'est ça.
et là c'est... Alors vas-y, je te laisse continuer du
Et
coup.
c'est cette notion de procrastiner finalement ses achats. On en avait entendu parler, je crois, François, quand on était allé à retraite anticipée. Et il y avait un des participants des conférences qui avait été animées qui parlait de procrastiner finalement ses plaisirs, procrastiner ses achats. Et finalement, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais. L'immédiateté dans le plaisir, finalement, après, ben, quand on a assouvi en fait une envie, c'est très court en fait. Ça va nous générer un bonheur qui va être très éphémère, et puis très vite, on voudra une nouvelle chose encore et encore. Donc, le fait de procrastiner, moi, je sais que ça a été un moyen pour moi de vraiment susciter le désir et l'envie et de le maximiser en fait. Parce que du coup, quand j'ai eu enfin atteint quelque chose que je m'étais donné, dans l'objectif d'acheter, et bien en fait, je me suis dit, ok, j'ai dû passer par toutes ces étapes-là avant, et du coup, elle a une autre signification pour moi, cette acquisition. Je sais qu'elle m'a permis éventuellement de devenir un nouveau moi, parce que j'ai dû me challenger, j'ai dû dépasser des limites, et donc il y a une récompense, c'est pas juste je me love comme ça. Alors bon, après, on peut très bien se faire plaisir sans forcément devoir mériter, mais je trouve que ça fait sens des fois de procrastiner, et ça fait que amplifier encore plus le plaisir dans ce que j'ai expérimenté.
Moi, je trouve que je suis quand même assez d'accord avec cette idée de méritocratie, de te donner en échange de ce que tu fais une récompense équivalente par rapport au travail effectué. Et tu vois, je trouve super intéressant parce que ça me fait penser à une technique que je fais, donc je vais la partager. Des fois, quand j'ai envie de quelque chose ou quand j'ai toute une liste de trucs que je veux, je vais sur un site, bon, peu importe, Amazon ou un autre site en e-commerce, et en fait, je vais me faire mon panier, mais je vais pas le valider. Et ça, c'est une bonne technique. Au final, on a le plaisir en fait d'ajouter dans le panier. On fait bien ajouter au panier, on fait tout ajouter, on a tout son panier, et puis après, on laisse le panier. Et en fait, on le valide pas. Juste de faire ça, en fait, c'est comme si on l'avait acheté, d'une certaine manière. On hack son cerveau, j'ai l'impression, sur l'achat, en fait, du panier. Et puis après, rien n'empêche, dans une semaine, deux semaines, un mois, de revenir, de soit mettre en liste d'achat pour plus tard le panier, voire même de dire « Ah tiens, finalement, ce produit-là, bah, j'en ai plus besoin » ou « J'en avais pas vraiment besoin » ou etc. Et finalement, juste en remettant dans une semaine l'achat et la validation du panier, bah on se rend compte qu'on peut peut-être enlever 20% du panier. Allez, on va dire la loi de Pareto, ouais. On va pouvoir enlever 20% du panier pour avoir finalement tout autant de plaisir qu'on aurait eu à la base.
On peut le faire sur les vêtements aussi, de garder les étiquettes des vêtements et de se dire, quand j'achète un vêtement, je me donne 2 semaines ou 3 semaines. Souvent, on a des politiques de retour qui sont assez grandes. Donc, on reste dans la politique de retour et on se dit, je coupe pas l'étiquette tant que cette période-là n'est pas finie. Ce qui nous donne un temps supplémentaire pour y penser. Et puis, on a eu le plaisir de l'acheter, d'avoir magasiné, d'avoir trouvé, tiens, tel pantalon, je l'aime bien. Pour ceux qui dépensent beaucoup dans les vêtements, là, ça peut être un hack. Et puis, on peut le porter à la maison, tu vois, mais, ou même dans la rue, si tu caches bien l'étiquette, pourquoi pas. Mais voilà. Et je sais que Dominique, des fois, elle fait ça un peu parce qu'elle a ce côté-là, donc Dominique, ma blonde, parce qu'elle vient un peu du milieu de la mode. Donc, à un moment donné, elle a acheté beaucoup de vêtements. Là, elle fait attention, elle va tout le temps dans des friperies. Et déjà, les pièces de vêtements qu'elle achète, ça a toujours bon goût et c'est toujours à des prix, à mon avis, très raisonnables. Mais malgré tout, je vois que des fois, elle les met de côté. Et des fois, elle va retourner certaines choses. Elle dit « Ah, oh, ben finalement, il ne me faisait pas comme je pensais » ou des choses comme ça. Et si elle avait coupé tout de suite et voilà, on lave et on est prêt à le porter, bah après, tu te ramasses avec des vêtements finalement que tu as payé pour pas grand-chose. Puis ça, moi, ça m'est arrivé très, très souvent.
Ouais. Voilà. Et je voulais ajouter encore un truc en dépense pour pouvoir se faire plaisir et toujours essayer de dépenser moins. Ça va être d'être malin dans sa dépense. Je vous donne un exemple. Toi Julien, donc t'avais parlé du fait pour les transports en commun de limiter son peut-être, pardon, pour les transports, c'était de limiter ses transports en prenant ses coûts en prenant les transports en commun. Je vais y arriver. Moi typiquement, j'avais décidé à un moment donné dans ma vie de ne plus prendre le bus. Donc ça a été c'était quelque chose qui était pour moi plus important. Alors ça veut pas dire que je suis attention, je veux pas qu'on me fasse un procès d'intention et tout ça, pas l'idée de niquer la planète ou quoi que ce soit, c'était juste de dire je sais pas, dans ma tête c'était le symbole de la rat race, de prendre le bus, d'aller au travail, métro, boulot, dodo, et donc du coup je voulais sortir de cette idée là de je cours après le bus. Donc j'ai dit j'arrête de courir après le bus, je prends une voiture. Bon, on peut voir hein, par contre que dans les grandes villes, quand on a sa voiture, la problématique va être les bouchons. Hein. Donc, encore une fois, c'est pas du tout sur la partie écologique dont je parle là. C'est vraiment sur la partie se faire plaisir avec ce qu'on par rapport à notre utilisation. Et moi, j'ai une utilisation où, à l'époque, j'habitais en dehors de la ville. Pouvoir faire 30-40 km dans la journée, c'était pas forcément évident en bus, et la voiture était un moyen de transport qui était plus pertinent et plus agréable pour moi. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est, on pourrait se dire bah ok, bah du coup tu vas acheter une voiture de merde pour rester dans tes dépenses qui sont cohérentes. Peut-être pas. Tu peux aussi être malin. Moi je me suis positionné sur des aides de l'État. Je suis parti sur une voiture électrique d'occasion. J'avais la capacité de pouvoir la recharger directement à la maison et donc de dépenser extrêmement peu en essence. Et au final, l'un dans l'autre, bah, je me suis retrouvé avec une voiture qui avait même pas un an, 10 000 km au compteur, et je l'ai payé 7000 balles avec la prime à la casse, avec la revente de mon autre véhicule. Donc j'ai enlevé deux véhicules pour finalement en avoir plus qu'un. Et puis en plus, mon coût d'essence, comme je disais, qui a été divisé par 5, voire entre 5 et 10. Bon, c'est une grosse fourchette, mais ça dépendait des mois, ça dépendait des années en fonction de mon utilisation. Mais grosso modo, un plein de ma voiture électrique me coûtait 8 euros. Comparé à un plein, là, il y a quelques mois, où ça coûtait facile une centaine d'euros pour pouvoir faire son plein. Donc, vous voyez qu'on peut aussi se faire plaisir, être dans le cœur et être dans, finalement, ses envies, mais en le faisant intelligemment. Et là, actuellement, si je revends ma voiture, je la revends 14 000 balles.
Ah ouais, non, c'est
sûr. Elle vaut 14 000. Voilà. Après, il y a eu l'inflation, il y a eu
un marché un peu particulier, etc. Mais oui.
On est d'accord.
Et oui, mais après, c'est pareil. Si tu veux acheter électrique, tu as fait tes calculs d'essence et ça fait du sens, parfait. Mais après, toi, tu vois, tu as acheté usagé, puis tu as acheté un truc.
J'ai acheté usagé.
Voilà.
Mais il faut trouver les bonnes occasions.
Bon, bah, allez, vas-y, je me paye une Tesla parce que électrique, machin, voilà. Je paye ça neuf.
Et voilà.
Bah, pourquoi pas ? Si tu peux te le permettre, c'est très bien. Mais ne te mens pas à toi-même. Tu vois ce que je veux dire ?
Voilà,
tu peux m'en faire à moi,
ça.
Ne te mens
mais
pas à toi-même. Tu vois, fais ton calcul. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'une Tesla neuve ? Peut-être que tu pouvais aussi trouver du électrique moins cher.
Donc, moi, j'ai pris une petite Renault Zoé.
Chacun se regardera dans le miroir et fera ses propres choix. Hein.
Exactement.
C'est
j'ai pris une petite Renault Zoé, j'en suis très content. Et vous voyez, à l'époque, c'était quand même un move assez bold parce que c'était il y a 3 ans. Et en fait, il n'y avait pas autant d'endroits pour pouvoir recharger. J'habitais à la campagne, mais aussi en ville. J'étais à moitié-moitié. Donc du coup, bah, en ville, il fallait quand même trouver des
zones
de recharge.
C'est sûr qu'en étant à la campagne, des fois, la voiture, on n'a pas le choix. Ça, c'est sûr. Ouais.
Bref, toutes les choses comme ça en réflexion, moi, voilà, je veux aussi que la personne, qu'il n'y a pas... on ne veut pas vous taper dessus, voilà. C'est ça que je veux dire. On n'est pas là pour vous dire, vous
ne
faites pas
fois...
plaisir, etc. Faites comme vous l'entendez. Mais soyez malin, il y a potentiellement des zones où on peut se faire plaisir. Je vous redonne un autre exemple. Je devais partir en Suisse pour mon stage. Au début, je voulais vraiment trouver un endroit pour pouvoir me loger tout seul. Parce que voilà, j'étais en couple, je voulais potentiellement avoir ma tranquillité, mon petit espace de vie. Bon, bah, la Suisse, oublie, hein, ça coûte beaucoup trop cher. Bon, bah, ok, je me suis mis en coloc. J'ai trouvé une coloc super géniale. J'ai rencontré des personnes au top. Et j'ai adoré cette année où j'ai été, un petit peu moins d'une année, où j'ai été en colocation avec 5 Suissesses super gentilles, qui m'ont même d'ailleurs bien aidé durant ces 7 mois où je travaillais comme un forçonné. Et où elles étaient super serviables, elles m'ont tellement accompagné durant ces 7 mois où j'étais juste à bout de travailler tout le temps. Donc, vous voyez, il y a des fois...
La coloc, c'est une très bonne solution, ouais.
Des fois, on fait des choix qu'on se dit « Ah, merde, je sacrifie des envies, je sacrifie des trucs. Moi, je voulais une capture, je voulais ma voiture toute neuve, je voulais... Bah ouais, bah, je vais faire des concessions, mais OK avec ce que je veux. » Qui finalement sont très très bien par rapport à ça. Donc voilà, moi c'était vraiment là-dessus. Et puis aussi, par rapport à la dépense, on peut aussi l'externaliser. Typiquement, si vous êtes OK actuellement que votre source de revenus, c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance et donc à l'étranger, pourquoi pas aller chercher des dépenses dans un pays où vous payez moins
cher.
Voilà.
Vivre un coût. Il y a beaucoup de retraités qui font ça. Hein.
Beaucoup d'infopreneurs aussi qui partent dans des pays asiatiques.
C'est ça. C'est plus récent, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées donc, du coup, qui n'ont plus besoin
Portugal.
De travailler, d'être présents, par exemple en France, qui vont au Portugal, c'est bien connu. Ici, on peut imaginer des gens qui vont vivre au Mexique. Là, en ce moment, c'est le Costa Rica, etc. Mais on le voit de plus en plus, effectivement, avec des gens qui sont toujours actifs, mais parce qu'on peut travailler à distance, qui se disent bah, « moi, je vais aller dans un pays où le coût de la vie est moins cher ». Et tu le vois quand tu voyages, en fait, hein, c'est un truc de malade. Là, on était dans le sud de l'Italie, j'ai été à Malte, je regarde par rapport à Montréal, oui, il y a de l'inflation, mais à Montréal, à côté, on se fait défoncer, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc bon, aujourd'hui, mon emploi est là et je ne peux pas le délocaliser, donc c'est correct. J'ai fait mon plus, mon moins, je reste plus intéressant d'être ici parce que j'ai un salaire intéressant. Mais clairement, si mon salaire n'était pas plus gros que ça, j'y penserai deux fois, je me dirais « merde bah, peut-être que je peux aller vivre ailleurs où ça me coûte moins cher. » Parce que si tu augmentes ton Z, bah voilà. Alors après, Dernière chose, parce que ça fait déjà une heure, et c'est juste un rappel que je veux faire. Encore une fois, on n'est pas... on n'est pas là pour donner nécessairement des... Je ne pense pas qu'on donne des conseils, on va vraiment partager en tant que tel notre expérience, les bilans qu'on a pu tirer de ça. Et l'équation, justement, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment... c'est posé. Après, à vous de vous approprier cette équation-là et à vous de déterminer. Si vous voulez avoir un train avec des dépenses plus importantes parce que ça fait sens pour vous, ben, allez-y, à fond, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste d'être conscient et de ne pas vous raconter des histoires, de dire, ben, effectivement, s'il y a objectif, eh bien, derrière, ce paramètre-là, il joue à ralentir un petit peu l'atteinte du résultat.
Moi, je connaissais, par exemple, quelqu'un, son Z, c'était son moteur pour pouvoir augmenter son A, typiquement.
Ben, ça peut,
il avait besoin
pas,
d'augmenter ses dépenses pour augmenter ses revenus. C'était mon patron en Suisse. Voilà, lui, il avait un très très bon salaire, hein, plus de 20 000 euros, je dirais, à l'époque, et 20 000 euros par mois. Hein. Et je me rappelle que c'était ça. Cette personne-là, elle avait besoin de dépenser plus pour se donner le challenge d'augmenter son salaire encore et encore et encore et encore. Et voilà, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Je ne suis pas convaincu qu'il était finalement si bon que ça en termes d'investissement. Et je ne suis pas sûr qu'au niveau de ses objectifs, il ait forcément atteint les objectifs qu'il aurait pu atteindre s'il avait diminué ses dépenses. Mais il s'est fait plaisir. Il a vécu la vie qu'il voulait vivre, en tout cas enfin, à l'époque où je le connaissais.
Peut-être
après,
que ça marchait
pas
pour lui. C'est ça qui me fait triper. J'allais dire, c'est ça qui me fait triper que tu peux croiser un gars dans la rue. Et c'est, j'ai un client du magasin où je travaille qui me parlait de son voisin, et il disait, son voisin, tu le croises dans la rue, tu penses que c'est un clochard. Le mec, il a un appartement genre penthouse au centre-ville. Le mec, il est millionnaire et il prend le métro, il s'en bat les couilles. Il est habillé en vêtements, voilà, c'est ça, on dirait un clochard. Et derrière, tu vois des gars, genre petit costard, petite BMW et tout. Et en fait, ces gars-là, bah, c'est du leasing. Ils ont fait du crédit de malade comme truc. Et je trouve ça intéressant de se dire, finalement, ne jugez pas le livre à la couverture. Et ça se peut que des fois, les gens qui ont l'air les plus pauvres autour de vous, ça se trouve, ils ont beaucoup plus d'argent. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de base. J'avais parlé du livre « La psychologie de l'argent ».
Il en parle tout de suite dans le premier chapitre. Il parle en fait d'une personne qui est homme de ménage et qui meurt en 2014 et qui, au final, alors qu'il a une vie, on pourrait croire que c'est une personne très lambda, au final, il a plus de 8 millions de dollars sur son compte. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vécu chichement, qui a économisé, qui a épargné, qui a acheté des actions et qui est resté très solide dans sa manière d'investir et qui n'a pas changé son fusil d'épaule et qui lui a permis finalement d'atteindre cette fortune-là. Alors qu'on pourrait dire, bah voilà, c'est juste un homme de ménage, techniquement, il devrait finir avec rien. Il a fini en 2014, je crois qu'il n'y a que 4000 Américains décédés qui avaient une fortune comme lui.
Qui avait cette fortune-là.
T'imagines? Je pense que je ne saurais pas dire combien il y a de morts par an aux États-Unis. Je n'ai pas regardé, mais je pense que vu qu'ils sont plus de 350 millions, ça doit être un peu plus que 4000. Donc il fait vraiment partie des hommes les plus riches qui sont morts cette année-là. Donc c'est assez dingue.
Et t'imagines, il y en a combien qui devaient faire 10 fois son salaire et qui sont pas dans ce...
Qui sont
n'ont jamais réussi à épargner autant d'argent.
Exactement.
Parce qu'encore une fois, c'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Et combien vous gardez suppose combien vous investissez. Parce que inflation, sinon, c'est comme avoir des glaçons dans la main, ils vont fondre entre vos doigts. Donc, c'est les mettre au frigo et trouver des stratégies pour atteindre vos objectifs.
Voilà.
Et après, tu vois, ce gars-là, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais peut-être qu'il a été heureux toute sa vie en ayant un job finalement assez simple, mais peut-être que lui, il y trouvait une forme de gratification. Il était heureux j'en avais déjà parlé avec un homme de ménage et il disait, bah, lui, il adorait en fait voir les gens entrer dans les bureaux et voir que tout était propre. Et pour lui, c'était ça son kiff. En fait, il était dans le service. Il était dans le service à l'autre. Et ça lui apportait beaucoup de bonheur. Donc, tu vois, on n'a pas besoin d'être un médecin, chirurgien, machin. On peut trouver de la valeur dans notre profession. Et même en ayant un salaire, somme toute, modeste, eh bien, bien investi, processus, en t'abonnant à Balado 3.0,
je l'ai fait en laissant un commentaire.
Ben, tu peux finir avec, tu peux finir avec un beau capital.
Après, voilà.
Christian,
encore une fois, ça sert.
Je te laisse un mot.
Ça ouais, sert à rien de finir. Ça sert à rien de finir l'homme le plus riche du cimetière.
Oui.
Non.
On
c'est
est bien
ça
d'accord.
Aussi.
C'est pour ça que je veux vraiment ramener un
alors
point.
Vas-y, je te donne le mot de la fin, Christian, parce qu'on a beaucoup jasé et puis on est déjà à 1h12. Alors François, il crie. Ok. Alors François, t'auras un mot aussi, mais Christian, je veux te laisser la parole parce qu'on t'a moins entendu.
Ouais, ouais. Non, mais c'est ok. C'est intéressant de vous entendre aussi. Ça me donne des idées. Oui, pour moi, on l'a dit au début, mais je veux vraiment réappuyer dessus sur cette fin d'épisode. C'est qu'en effet, ce chiffre, c'est de façon factuelle les moyens dont vous avez besoin pour rendre tangible un rêve. Et donc, ça veut dire qu'en amont, il y a déjà eu réflexion sur ce rêve qui est le vôtre. Et de se dire, pour arriver à atteindre ce rêve avec l'ambition que j'ai pour ce rêve, parce qu'il peut y avoir un rêve qui peut avoir plusieurs niveaux d'ambition, eh bien, quel est le coût de ce rêve? Qu'est-ce que ça va me coûter? Oui, il y a le coût de la vie, on l'a vu, etc. Et ça, à la limite, c'est le chemin pour y arriver. Mais c'est, voilà, comment je vais le rendre tangible et comment je vais le concrétiser? Moi, j'aime cette idée aussi de se dire, bah, j'ai peut-être un message à faire passer, j'ai peut-être quelque chose qui est important pour moi, et comment je vais le diffuser. L'argent peut être un très bon moyen aussi pour impacter plus grand, avoir un message qui va toucher plus de gens. Donc, l'idée, après, c'est que quand on a ce rêve et qu'il est clair pour nous et qu'on a un véritable pourquoi, eh bien, c'est, par mon sens, c'est plus facile aussi, derrière, d'éviter de tomber justement dans ce piège où on va finalement être finalement dans le projet des autres. C'est-à-dire que quand vous achetez finalement une Ferrari, pas du tout dans la façon dont on l'a dit, c'est-à-dire en claquant tout votre argent, en la prenant cash et en la prenant neuve, etc., eh bien, vous allez être dans le projet de Ferrari. Si vous achetez iPhone, vous allez être dans le projet d'Apple. Et à ce moment-là, c'est d'avoir conscience, grâce à cette formule, qu'on vous a livré clé en main, quelque part, eh bien, de se dire, mince, ok, là, finalement, je suis dans le projet de quelqu'un d'autre, je ne suis plus dans mon projet. Et c'est pas bien, c'est pas mal. Est-ce que je suis ok avec ça, en fait? Parce que peut-être que là, pour le coup, ben, ce rêve qui est le mien, il va mettre peut-être 10 ans de plus à être tangible pour moi. Est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que je suis ok avec ce prix à payer? Et si je ne suis pas ok, ben, peut-être qu'à ce moment-là, venir couper sur certains aspects, c'est pas si douloureux que ça, en fait. C'est douloureux quand en fait, ce processus est fait avec aucun sens et aucun rêve. Parce que du coup, c'est juste une privation pour une privation. Mais si, en effet, je le vois comme, finalement, un moyen d'accélérer l'atteinte de mon rêve, c'est plus une privation, en fait. Ça devient du bon sens, finalement. Ça devient une évidence et, à la limite, une condition sine qua non pour atteindre, finalement, ce projet qui est important pour nous.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Christian. Pour moi, si je devais résumer du coup les quelques points, ce que j'ai vraiment envie de donner encore une information très importante, c'est, mais je vais donner plusieurs choses. Bon, déjà, ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Je pense que c'est important de bien capter que là, ce qu'on a donné, c'est une équation où maintenant vous savez où vous pouvez appuyer. Vous avez la maîtrise de ces certaines choses. Vous savez que voilà, le A, vous avez de la maîtrise. Le Z, vous avez de la maîtrise. Le X, vous avez une certaine maîtrise. Ce qui va vous permettre d'atteindre votre Y. Tout en conscience et tout en mettant en parallèle votre envie par rapport à tout ça. Je donnerai quand même comme info par rapport à l'homme de ménage qui... je donne juste ça comme info, parce qu'il le donne dans le livre, et je me permettais de le dire, il donnait 2 millions à ses enfants et 6 millions à l'hôpital juste à côté de chez lui. Donc, potentiellement, c'était peut-être ça son objectif. Voilà, donc, est-ce qu'il a fini l'homme le plus riche du cimetière? Non, pas du tout. Et je pense que c'était peut-être son projet de léguer à ses enfants et de donner une bonne partie à la société. À la communauté, parce que peut-être la communauté lui avait déjà donné, je sais pas, d'une certaine manière. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est, dites-nous dans les commentaires déjà si 1h15, c'est un épisode qui est un peu long ou pas.
Comme ça, on avait dit 45 minutes, c'est impossible.
On n'y arrive pas.
Je sais pas
ce que
comment
je voulais
on va
dire,
faire.
c'est que le prochain épisode, on va parler du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Donc, c'est comme ça qu'on prononce.
C'était pas la synthèse. C'était pas la synthèse de la saison 1, le prochain
non,
épisode.
Non, c'est l'épisode d'après.
On est à l'épisode 8,
on est
au 8. Épisode 9.
On est
ah
9.
Oui, effectivement. Oui.
Du coup, si ah vous oui, avez, bah, vous entendez cet épisode, et ben vous pouvez commencer à lire, puisqu'on va parler des différentes règles, des différents points que l'auteur, donc Morgan Housel, je ne sais pas comment on prononce, si c'est un Z ou si c'est
je
un
sais pas.
S. Housel, Housel. Bref, peu importe. Morgan, on va l'appeler Morgan. Et ben, si vous voulez bah, comprendre ce qu'on, en tout cas ce qu'on va essayer de partager pendant le prochain épisode, vous pouvez le lire. Vous avez 2 semaines du coup pour le lire.
Ouais.
Ça peut être cool. Et puis dernier point que je voulais vous donner et qui me semble super important pour qu'on reste dans le concret, j'ai fait juste le petit calcul de combien de temps vous pouvez espérer devenir millionnaire avec un capital moyen et avec une épargne mensuelle moyenne. Donc c'était un calcul que j'avais fait il y a longtemps, donc là je l'ai revérifié il y a 2 secondes. On dit qu'un couple français en moyenne il a à peu près 10 000 euros d'épargne. Si vous mettez 10 000 euros d'épargne avec un taux annuel de 12%, 12% vous battez un peu le marché, mais vous n'êtes pas non plus excessif dans l'atteinte de l'objectif. Et que vous mettez 500 euros tous les mois en épargne mensuelle, ce qui est à peu près aussi l'épargne moyen qu'un couple peut faire, vous arrivez au million au bout de 25 ans. Voilà. Donc au moins que vous ayez cet ordre de grandeur en tête. Là, vous voyez par exemple un Y, un X, un A et un Z, puisque épargner 500 euros tous les mois, bah, ça vous donne aussi votre Z. Hein. Ça veut dire que vous savez
que le reste est dépensé en fait.
Le reste est dépensé. Et bien vous voyez. Comment là, concrètement, juste avec des chiffres, vous pouvez atteindre un objectif dans un temps donné avec les différentes parties de l'équation. Maintenant, le C, le cœur, bah, il dépendra de vous. C'est est-ce que vous vouliez le faire en 25 ans ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que vous vouliez le faire peut-être en 5 ans ? Et dans ce cas-là, il va falloir changer des paramètres de l'équation, etc., etc. Et encore une fois, vous pouvez aller en commentaire, en description, pour essayer la calculatrice et vous amuser avec ces petits chiffres.
Super, bon conseil, effectivement, c'est vrai, de changer les paramètres pour voir un peu les impacts. Moi, une chose que je fais en ce moment, c'est que je revends un peu plein de trucs que je n'utilisais pas. J'ai commencé à juste prendre un papier et noter la valeur de mes possessions, entre guillemets, et de dire, bah, ça, est-ce que je le garde ou est-ce que je le revends ? Et j'ai commencé à revendre des choses, et donc c'est souvent les gens ils te payent en comptant, hein, et je les mets dans une petite boîte. Juste parce que je veux voir un peu cet argent physiquement, tu vois, avant de l'investir. Là, je vais l'investir bientôt, mais je trouve ça intéressant de dire, ok, mais ça, c'était de l'argent qui dormait en fait. Et là, je parle juste sur un prix de revente en fait, où j'ai perdu de l'argent quand même. Donc, si tu peux hacker le truc et avant même de dépenser, déjà juste ça, c'est ouf en fait. C'est ouf l'impact que tu peux avoir sur ton équation. All right, bon, et bien allez, 1h20, merci à ceux qui sont encore là de nous avoir écoutés. Et puis, on espère que ça vous a intéressé. J'espère que ce n'était pas trop complexe. On a essayé quand même de garder ça léger. Et l'objectif, vous l'avez bien compris, François l'a dit, de cette équation, c'était vraiment d'avoir une vision presque froide, détachée hein, de ça. Et ensuite, bah, de voir comment vous pouvez impacter votre vie en ayant la conscience finalement de tout ce qui joue sur l'atteinte de votre liberté financière. Alors, on vous laisse vous abonner encore une fois pour le prochain épisode et nous laisser un commentaire 5 étoiles si vous avez apprécié. Pensez aussi à partager peut-être l'épisode. Vous avez autour de vous des gens qui s'intéressent à l'argent de près ou de loin, à la psychologie, à l'entrepreneuriat. Alors, on vous laisse leur recommander notre chaîne. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut les gars.
Salut, à bientôt.